I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
France Culture, bienvenue dans Soft Power en direct jusqu'à 20h30 et après un long week-end en direct du centre Pompidou. Nous sommes de retour à la maison, hein, à la maison de la radio pour une émission consacrée ce soir à la musique électro, à la French Touch et en particulier au label Headbanger qui fête ses 15 ans. Et je reçois ce soir Pedro Winter, le patron du label Headbanger. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
15 ans déjà, l'anniversaire de votre label qui résume à lui seul, pour une part, avec d'autres, la French Touch, a eu lieu le 31 mars au Grand Rex à Paris, avec un orchestre philharmonique sur scène. L'électro confronté, au classique, est-ce pour dire que la musique électro atteint l'âge de la respectabilité ou alors que vous portez comme valeur l'éclectisme, le mélange des genres ?
Voilà, c'est ça, c'est très bien résumé. C'est plus, il y a derrière ce projet aucune envie de rendre la musique électronique plus noble qu'elle est ou dire que c'est aussi de la musique. Il y a pas du tout ça comme envie.
Mais ce qui était étrange lorsqu'on a assisté à cette soirée, c'est que en général, quand on a la musique classique, c'est sophistiqué, c'est de haut niveau et c'est, on peut dire, plus fort souvent que d'autres musiques. Et là, étrangement, c'est comme si l'électro était plus puissant que l'orchestre symphonique qui le jouait, qui le rendait un petit peu musique de film, etc. Et l'électro perdait de sa puissance, comme si le classique n'était pas capable de l'amener à ce qu'il est en principe.
Alors, en termes de puissance, effectivement, on perd de la puissance parce que la musique électronique, sa base, c'est le rythme.
Comme si l'électro était plus qualitative dans ces cas-là.
Alors en fait, non, je pense qu'elle est plus puissante, mais en termes d'émotion, je trouve qu'on a gagné en émotion avec ces reprises orchestrales. Et finalement, c'est cette magie qui a opéré. Moi, quand j'ai lancé ce projet il y a un peu plus de 3 mois, rien n'était garanti quant à la chair de poule que tout le monde, que les 3000 personnes au Grand Rex allaient avoir et la petite larme aux yeux qu'on allait tous avoir à la fin du concert et la magie a opéré et donc finalement c'est les compositions et l'écriture de la musique de tous les artistes du label qui fait que y a une cohérence, il y a quelque chose de, alors c'est pas une question de légitimité mais en tout cas c'est de voilà, que le chef d'orchestre a lui réinterprété, puisqu'il y a eu un gros travail d'adaptation quand même, pour que tout ça soit joué par 70 musiciens.
Le pari est réussi, quoi. Les 15 ans du label Headbanger avec vous, Pedro Winter, vous étiez sur scène d'ailleurs ce soir-là.
C'est surtout Thomas Roussel, le chef d'orchestre, et l'orchestre L'Amoureux qui étaient les stars ce soir-là.
Vous avez évoqué la famille Headbanger, on y reviendra. C'est notamment des gens comme Justice, Cassius, Mr. Oiseau, Sébastien, on peut citer Vladimir Cauchemar parmi les plus récents, Cassius, je l'ai dit, Blackbot. Puis vous avez été le manager, producteur de Daft Punk. On reviendra sur tout ça au cours de cette émission. Vous serez interrogé ce soir par Marjorie Paillon de France 24, bonsoir. Et par Zoé Sfez, bonsoir.
Bonsoir.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives. Nous parlons de la politique culturelle de la ville de Paris et du discours qu'a prononcé le président de la République, Emmanuel Macron, jeudi soir, à l'attention des professionnels du cinéma. En seconde partie d'émission, votre invité innovation ce soir, Zoé Sfez.
Il s'appelle Arnaud Delataille et c'est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Asso Connect et qui propose tout simplement des modèles de gestion aux associations. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, les entrepreneurs de la fintech ont eu du mal à s'intéresser à ce secteur dont on pensait qu'il y avait peu d'argent. Et en réalité, c'est un peu la ruée vers l'or. On va comprendre pourquoi avec lui.
20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré à l'Europe et sa régulation en matière de numérique au moment où la RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, va entrer en vigueur. Et nous en débattrons ce soir avec Elliot Lepers et Paula Forteza. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Vous avez vu qu'on avait pris un générique spécialement pour vous, titre du dernier album de Daft Punk, avec Giorgio Moroder en l'occurrence, comme récitant, on pourrait presque dire storyteller au début de ce morceau très symbolique. Cette émission est réalisée ce soir par Anne-Laure Chanel avec en régie Anthony Thomasson. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Pierre Le Damani, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur Facebook en live, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Medium, sur LinkedIn en podcast et donc sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Pour commencer cette émission, on revient sur le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, prononcé jeudi soir à l'Élysée en présence de plus d'une centaine de professionnels du cinéma. Alors juste avant le Festival de Cannes qui commence le 8 mai, le président a donc organisé ce dîner de gala, nous y étions, pour défendre le modèle français de financement et de production du cinéma. La plupart des grands noms de cette industrie culturelle, patrons de salles, producteurs, médias, diffuseurs, étaient là, même un représentant de Netflix, ainsi que des acteurs et des comédiennes aussi prestigieux que par exemple Jean Dujardin ou Monica Bellucci. La ministre de la Culture, la secrétaire d'État aux droits des femmes ou encore la patronne du CNC, Frédéric Bredin, généralement assez peu visible, était là également. Je retiens trois choses de ce dîner prestigieux. D'abord le talent d'Emmanuel Macron sur la forme, qui bien qu'encore jet-lagué, puisqu'il revenait d'un voyage à Washington le jour même, était très à l'aise, une sorte de poisson dans l'eau avec les professionnels du cinéma. Le président n'a presque rien mangé, malgré un repas signé par de grands chefs et les meilleurs ouvriers de France. Mais il passait d'une table à l'autre, bavardait avec les uns et les autres, détendu, amical, glissant un mot à l'oreille d'un ancien conseiller de François Hollande ou embrassant une actrice dans sa robe de soirée. Il est très à l'aise et très adapté, très, très copain avec le milieu du cinéma. Ensuite, sur le fond, le président sait se poser en défenseur du cinéma français. Son système vertueux, dit-il, il sait défendre le droit d'auteur et s'est félicité que l'Europe, à travers une contribution SVOD, puisse imposer à Netflix ou Amazon de financer la création française. Faut-il revoir la chronologie des médias ? Le président considère que cela reste du ressort des professionnels. Il laisse entendre en revanche qu'il va relancer Adopi, durcir la surveillance des sites miroirs et ériger des listes noires. Même si rouvrir la guerre contre Adopi n'est peut-être pas une si bonne solution que ça. Nicolas Sarkozy y a laissé des plumes il y a quelques années, se coupant de la jeunesse. Et François Hollande, lui, s'était bien gardé de faire quoi que ce soit. Enfin, et c'est le seul bémol que j'apporterai comme bilan un peu de ce dîner de gala jeudi soir, par ailleurs dîner très réussi, Emmanuel Macron n'a fait aucune annonce. Il ne réunit qu'une fois par an le milieu du cinéma et ne se rendra pas à Cannes. Alors pourquoi n'avoir pas profité de ce dîner prestigieux pour annoncer quelque chose de nouveau, de disruptif, d'un peu audacieux. Et c'est peut-être tout le paradoxe de ce président justement disruptif, hein, dans bien des domaines, sauf dans la culture. Sa ministre semble, selon la presse, à bout de souffle. Son équipe peine à lui proposer des idées. Son passe culture suscite d'innombrables réserves. Il aurait pu tenter de reprendre la main, au moins à l'égard des professionnels du cinéma. Un dîner de gala est une bonne chose pour défendre le soft power français du cinéma. Et on y mange bien. Mais à quoi cela sert-il si on n'annonce rien ? Nous reviendrons la semaine prochaine sur le bilan d'Emmanuel Macron en matière de politique culturelle, de politique numérique, de médias et d'innovation, avec plusieurs chroniqueurs et invités de différentes sensibilités. Dimanche prochain donc, dans Soft Power sur France Culture.
Soft Power, reportage. Zoé Suez.
Et la semaine prochaine, le prochain Conseil de Paris sera le lieu pour le coup de plusieurs annonces. Frédéric Martel, de la part de Bruno Julliard, le premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est en charge de la culture, alors qu'il, lui, contrairement à Emmanuel Macron, va présenter une vingtaine de nouvelles mesures qui n'étaient pas prévues, en tout cas dans le programme culturel d'Anne Hidalgo quand elle a été élue en 2014, car Bruno Julliard se targue d'avoir rempli déjà 90% de sa feuille de route à 4 ans après l'élection d'Anne Hidalgo et à 2 ans donc de la fin de son mandat. Et donc, il propose d'en mettre en œuvre d'autres qui n'avaient pas été prévues il y a 4 ans. Alors, toutes, clairement, ne se valent pas. Certaines sont clairement des ébauches, des propositions, des réflexions, de créer notamment un fonds pour le spectacle vivant à Paris, ou encore de mettre en place des portes ouvertes de la création, ce qui existait déjà par arrondissement. Donc, on n'est pas sur des annonces qui toutes se valent, mais d'autres attisent une certaine curiosité, comme celle de mettre en place un partenariat avec les maisons d'enchères qui œuvrent sur la place de Paris. Et on sait qu'il en est certaines qui sont très présentes, qui donneraient 1% des revenus de leurs enchères chaque année pour financer la création parisienne. C'est ce que m'expliquait en tout cas Bruno Julliard, qui souhaite les convaincre.
Paris est une ville exceptionnelle, probablement même la capitale mondiale de la diffusion. Chaque soir à Paris, il y a 100 concerts de musique. Il y a 350 théâtres publics ou privés qui sont présents dans les rues parisiennes. Il y a plus de 1000 galeries. En revanche, je pense déterminant d'amplifier toutes les politiques de soutien à la création et donc à cette capacité des artistes, toutes esthétiques confondues, à créer à Paris. Et puis, nous nous sommes aussi dit qu'il faut trouver des moyens de financement nouveaux à un moment où l'argent public est plus rare. J'ai quand même la chance d'avoir un budget culturel qui continue à augmenter d'année en année, mais je pense quand même qu'il faut trouver d'autres moyens. Et après un échange avec le Crédit Municipal, qui organise chaque année à peu près 80 ventes aux enchères, nous nous sommes dit qu'un pourcentage, très faible en l'occurrence 1%, du produit de ces ventes aux enchères pourrait être directement fléché au soutien à la création artistique, notamment pour les artistes émergents, là aussi toute esthétique confondue. Donc nous allons commencer cette initiative uniquement avec le Crédit Municipal de Paris. Ce sera quelques centaines de milliers d'euros en termes de bénéfices pour les artistes concernés. Et pourquoi pas engager avec nous, dans un second temps, d'autres maisons de vente aux enchères dont les chiffres d'affaires, ceux-là, sont nettement plus conséquents que le Crédit Municipal. Mais j'espère que nous pourrons convaincre d'autres maisons de vente aux enchères. Je pense que ça peut y compris être leur intérêt.
Mais qui sont ces artistes? Parce que là, vous parlez des artistes contemporains. Alors c'est qui? C'est des Parisiens? C'est des gens qui sont les écoles d'art? Comment est-ce que vous les flécheriez?
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une inégalité dans cette capacité d'être soutenu et d'accéder à des fonds publics comme privés pour pouvoir créer. Tous ceux qui sont un peu en dehors des radars, qui n'ont pas été repérés par ces personnalités ou par ces organismes publics comme privés, c'est aussi vers cela qu'il faut s'adresser. Bon, je pense qu'on pourrait créer des commissions pluridisciplinaires, toutes esthétiques confondues, et puis essayer d'aller chercher, notamment un peu aux marges, ceux qui sont peu soutenus dans des collectifs d'artistes, en dehors des murs de Paris. Je pense notamment à une dimension métropolitaine assez peu présente aujourd'hui et qui pour autant peuvent être source de création assez extraordinaire.
Puisqu'on parle des marges et de l'au-delà du périphérique, transition toute trouvée sur l'une des annonces importantes et intéressantes de ce texte que vous présenterez au Conseil de Paris, la volonté d'élargir la Nuit Blanche, qui clairement est un des plus gros succès de la mairie de Paris depuis plus d'une dizaine d'années, au-delà du périphérique.
J'ai vraiment la conviction que l'avenir des politiques artistiques et culturelles et de la défense des arts sur le territoire parisien, il passera par une politique culturelle de plus en plus métropolitaine. C'est vrai pour le soutien à la création, c'est vrai pour le soutien à la diffusion des œuvres, c'est encore plus vrai pour ces politiques de démocratisation de l'accès à la culture. L'avenir est au Grand Paris. Et je constate quand même que il est encore aujourd'hui difficile de trouver les institutions, les bons tuyaux institutionnels et politiques pour mettre en œuvre cette politique métropolitaine. Et nous n'avons pas aujourd'hui une métropole du Grand Paris qui s'est dotée d'institutions, de budgets pour mettre en place une politique culturelle efficace, pertinente et qui produit des effets. Et donc, il faut quand même construire et poursuivre cette réflexion politique-là. Mais je pense que la dimension événementielle, parfois symbolique, elle est très loin d'être suffisante, mais elle peut quand même permettre de jeter des ponts, notamment en permettant que certains bouts du périphérique soient totalement dédiés. Je l'aimerais pour toute la nuit. Nous échangerons avec la préfecture de police. Les discussions, j'imagine, ne seront pas simples. Mais en travaillant avec d'autres collectivités, nous allons construire cette Nuit Blanche qui, pour la première fois, sera totalement métropolitaine en 2019.
Autre annonce qui fait partie de ces annonces qu'on aime lire, mais qui souvent reste des vœux pieux, la question de la parité dans les nominations culturelles. Quel est le constat aujourd'hui? Quelle est votre volonté? Et concrètement, est-ce que c'est atteignable en 2 ans?
La parité à la direction de nos grands établissements culturels, la parité non seulement est un objectif, mais je peux vous assurer que nous y arriverons. En fait, j'ai constaté qu'il y a un moyen très simple d'y arriver. Il suffit simplement d'exiger que dans le dernier carré, les 4 ou 5 dernières candidatures étudiées par le jury, il faut qu'il y ait la parité. Ça, c'est le plus difficile finalement. C'est d'imposer que dans les critères de sélection, à la fin, il y ait bien une parité d'hommes et de femmes. Et puis après, les choses sont très naturelles. En réalité, il est tout simplement faux d'affirmer que vouloir atteindre la parité dans les directions d'établissements culturels, c'est forcément mettre en place une discrimination positive qui se traduit par le recrutement de personnalités moins compétentes parce que femme. C'est tout simplement faux. Jamais nous n'avons imposé une femme parce qu'elle était une femme. Nous avons toujours en revanche imposé que dans le dernier carré de candidature, il y ait la parité. Et après, les choses, elles se font d'elles-mêmes. Il y avait un rééquilibrage à opérer parce qu'il y avait un retard conséquent, raison pour laquelle nous avons à ce stade, depuis 2014, recruté 14 femmes pour 21 directions renouvelées et nous arriverons assez rapidement à la parité.
France Culture, 19h16 en direct. Vous êtes dans Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h30. Mon invité ce soir est Pedro Winter, le patron d'Headbanger, le label qui porte son nom, ce nom, l'Headbanger. Qu'est-ce qu'on écoute en ce moment?
Très bon choix, Frédéric. je salue votre programmateur musical. C'est un remix de DJ Medi d'un morceau que j'ai fait, alors par contre je suis très nul, 2006 ou 2000, je
2008.
Sais, 2008, donc To Protect and Entertain, qui était un morceau hommage à une scène naissante en Californie, à Los Angeles précisément, qui découvrait un quoi, qui redécouvrait disons la musique électronique française à travers Headbanger. Donc on a fait pas mal de fêtes là-bas, il s'est passé beaucoup de choses, et donc c'est un morceau que j'ai fait avec un rappeur local qui s'appelle Murs, et cette version précise, c'est DJ Medi qui a fait un remix. Et ce qui est intéressant avec cette version, c'est que Medi s'était un peu éloigné des productions hip-hop et rap pour se concentrer sur son œuvre plutôt électronique et dansante. Et là, pour le coup, je lui avais dit, fais-moi un remix comme à l'époque quand tu faisais du son pour 113 ou Ideal J. Et donc c'est pour ça qu'il y a un goût prononcé pour le rap.
Et c'était aussi pour nous une manière de lui rendre hommage.
Et ben c'est un très beau signal qu'on lui envoie. On lui envoie que des bonnes ondes. Il nous envoie tellement de bonnes ondes qu'on continue.
Il est décédé dans un accident. Est-ce que c'est une famille? Comment est-ce que vous définiriez? DJ Medi était un des premiers artistes d'ailleurs que vous aviez signé dès 1998. Le label a été créé il y a 15 ans maintenant. Pedro Winter, le label Headbanger. Il y a des artistes aussi divers que Justice, Cassius, on l'a dit, plus récemment Vladimir Cauchemar, Sébastien, Mister Oiseau, etc. C'est une famille, c'est une écurie, qu'est-ce que c'est?
C'est un peu tout ça. C'est un mélange. C'est une famille puisque on voyage beaucoup ensemble. Donc on passe du temps. Les artistes se croisent en studio. Le bureau est un endroit aussi de rencontre et de réunion. Et donc le temps fait qu'effectivement on crée des affinités. Alors tous les artistes du label partiront pas en vacances ensemble. Hein, ça c'est. On va pas se mentir. Mais moi je fais un peu. Voilà, je suis un peu le chef de la colo, le papa, puisque je suis un peu plus âgé que certains, quoi, que la majorité des artistes du label.
Il y a aussi un mélange des genres qui permet de voir que la musique électro n'est pas seule dans son ornière. La musique électro, elle peut dialoguer avec la pop, elle peut aller vers le rap, elle peut aller vers parfois ce qu'on appelle les EDM, donc vraiment quelque chose de très dance, hein, l'electronic dance music. Elle peut être plus funk. D'ailleurs, Daft Punk a pu avoir ce type d'évolution. Et puis parfois, elle va même, alors ce qu'on peut critiquer un peu, j'ai vu que certains morceaux de votre label étaient dans des playlists de type chill out, où ça finit un peu presque Hotel Coast, c'est-à-dire Just Music ou Ambient Zone, pour citer des playlists qui existent aujourd'hui sur Spotify par exemple. Donc c'est quand même plusieurs genres, un mélange des genres, directions aussi.
Oui, mais ça c'est
encore chaque artiste.
C'est chaque artiste effectivement, mais c'est aussi mon souhait à moi. C'est moi qui ai créé ce label. Je suis le directeur artistique, donc j'insuffle mes influences et effectivement, c'est des influences que je...
Mais vous voyez l'électro aller vers quelle direction en ce moment?
Mais justement, l'électro va dans la direction qu'elle se crée, puisque c'est une musique qui est, encore une fois, qui est assez jeune. Hein. La house music, ça fait à peine 30 ans. On célèbre maintenant les 30 ans de la house music. Donc on est encore dans un phénomène jeune et récent. Et donc, c'est une musique, moi, pourquoi ça, c'est le milieu dans lequel je me sens bien, parce que c'est une musique qui se réinvente en permanence et qui n'a pas justement ce problème de frontières. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller faire des choses avec le jazz, avec la soul, la funk et le rock. Avec Headbanger, on a insufflé justement ce mélange des genres, à savoir réussir à réunir autant le public rap, électronique et les fans de Vampire Weekend ou de Metallica. Et c'est cette fierté-là qui fait que on porte aujourd'hui fièrement 15 ans d'histoire.
Vous avez dit, je vous cite, à 43 ans, le rap français, ça me concerne moins, je ne suis pas la cible. C'est quoi le dialogue avec le rap, l'électro et le rap, et le urbain, puisqu'au fond, c'est aussi ça le rap?
Il se passe plein de choses. Là, c'était une réponse me concernant, encore une fois, c'était un choix subjectif. Moi, effectivement, la scène actuelle rap français me parle pas tant que ça.
C'est une question de génération, c'est une question.
Il y a évidemment une question de génération, mais après, musicalement, moi, je suis un fervent défenseur et adepte de rap. Moi, le hip-hop fait partie de mon ADN, donc j'ai suivi et je suis absolument pas dans une position en disant c'était mieux avant. Moi, je suis pour que les générations actuelles réécrivent leur histoire. Là, précisément, il y a un disque qui est sorti la semaine dernière d'un producteur français qui s'appelle Midsizer, qui est un sublime disque qui s'appelle Bisou, d'ailleurs. C'est aussi rare, donc faut le souligner, parce que c'est un disque de rap français plein d'amour, et donc ça fait du bien aussi d'entendre ça. Les productions sont modernes et excitantes, mais c'est vrai que le reste du comment dire, de ce qui se passe dans le rap français m'a pas très touché ces dernières années.
Alors Pedro Winter, vous avez plusieurs casquettes, c'est le cas de le dire, puisque vous avez aussi, d'ailleurs vous vendez aussi des casquettes à travers, on y viendra, à travers le merchandising un certain nombre, et même une ligne de marque de vêtements qui s'appelle Club 75, portée par Rihanna et d'autres. La casquette manager, la casquette producteur, la casquette aussi artiste, comment est-ce qu'on combine ces différentes casquettes ?
On vit avec son temps et on profite du fait qu'on vive en 2018.
Mais comment on gère son ego, par exemple, d'artiste, on le met au service des autres?
Je pense que c'est la chance que j'ai, c'est d'avoir réussi finalement à créer cet équilibre, avoir autant d'excitation la semaine dernière à monter sur scène à Coachella et en même temps revenir le
Festival
lundi...
de Californie d'où vous revenez. Oui.
Voilà, et revenir lundi matin au bureau et travailler au service de mes artistes. Encore une fois, moi j'ai appris mon métier au contact de Daft Punk, et donc c'est quand même la meilleure école pour garder les pieds sur terre, puisque c'était quand même ce sont nos certainement les plus grands artistes français, et c'est des gens qui avaient les pieds sur terre, donc j'ai suivi cet héritage à ma façon, et j'ai créé après mon label et mon ego trip d'artiste se porte à merveille, puisque encore une fois j'ai la chance d'être épanoui sur scène.
Vous avez évoqué les Daft Punk qu'on avait mis justement en ouverture de cette émission. Vous disiez dans une autre interview, Daft Punk c'est le plus grand groupe du monde et ce sont les mecs les plus normaux, les plus passionnés et les plus travailleurs de la terre. Ils n'ont pas beaucoup travaillé depuis 2013, dernier album.
Vous n'en savez rien.
Random Access Memories. Ils étaient en concert pour la dernière fois, je crois, en 2007, à Sydney, ou un peu avant, en 2006, à Coachella. Ils étaient aux Grammys, où on les a vus un peu passer en 2014. Qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Alors, je n'ai absolument aucune information à vous donner, cher Frédéric. Je suis vraiment désolé de décevoir tous les auditeurs de France Culture. Mais je suis comme vous. Moi, je suis redevenu un simple fan. Daft Punk, c'est ça aussi qui est magique. C'est une aventure à laquelle j'ai participé pendant 12 ans. Et effectivement, à partir du moment où vous sortez du noyau dur et du cocon de création, vous redevenez... fan, et moi j'aime bien cette position. J'étais fan avant de les rencontrer, j'ai eu la chance encore une fois de collaborer avec eux, et là de redevenir fan, c'est assez excitant aussi d'être comme tout le monde, de se dire...
C'est un des groupes les plus connus au monde. Est-ce qu'on a besoin à un moment donné d'une sorte de sas pour pour repenser, se mettre ouvert. Alors, je ne sais pas s'ils sont ouverts, je crois qu'il y en a un qui habite à Paris dans le Marais, mais ce n'est pas trop ouvert. Mais est-ce que c'est une manière de se ressourcer, puis pour peut-être un jour revenir, mais autrement ou...
Les concernant,
ou en général, les conseils que vous pouvez donner à un artiste quand ils ont atteint un succès mondial aussi impressionnant.
Mais là, on touche au Graal. Là, je veux dire, la carrière de Daft Punk, elle est inégalable et inégalée, et je pense qu'elle marque l'histoire de la musique française
pour longtemps,
avec un grand H, et l'histoire de la musique mondiale. Donc c'est délicat de donner un conseil en référence à ce parcours, quoi.
Marjorie Paillon.
Oui, on vous surnomme le parrain de l'électro française, le prince de la French Touch. Vous faites rayonner l'électro made in France à travers le monde. Et concrètement, on a plutôt l'impression que vous êtes aussi à l'aise en coulisses pour justement essayer de mettre en place, de fédérer ces labels de labels et essayer de faire éclore cette touche si particulière, cette French Touch. Aujourd'hui, en 2018, d'ailleurs, ça veut dire quoi la French Touch ?
Alors, c'est toujours délicat. C'est un mot qu'on utilise qui est plutôt pratique. Et encore une fois, ici à l'antenne de France Culture, ça permet aussi aux gens de comprendre effectivement la touche française. Alors, il y a une époque.
Puis c'est très français hein, comme expression.
French et c'est l'expression qu'on utilise pour la mode, qu'on utilise pour la French Tech, qu'on utilise pour plein de choses. Mais effectivement, la French Touch, il y avait une espèce de marque déposée, disons, pour cette. Période fin des années 90, début des années 2000, avec justement Cassius, Dimitri From Paris, Daft Punk, Air, Phoenix, tous ces groupes qui finalement...
David Guetta.
Bah alors c'était avant David Guetta, ouais, David Guetta.
Laurent Garnier alors.
Laurent Garnier c'était encore bien avant, mais effectivement il y a eu un...
Martin Solveig, Bob Sinclair, qu'est-ce que je peux faire?
C'est pas tout à fait la même chose, non mais c'est intéressant ce que vous dites, vous avez l'air de dire que c'est pas tout à fait la même chose.
Mais il y a plusieurs époques, mais sans rentrer dans les détails. En fait ce qui a été important et ce qui a marqué l'industrie du disque français et cette French Touch, c'était ces groupes français qui s'exportaient enfin. C'est-à-dire que c'était un moment où on a arrêté de prendre la musique française pour la musique de blagues ou à chaque fois revenir sur Edith Piaf ou Serge Gainsbourg, même si c'était un héritage magnifique.
Et même si Charlotte Gainsbourg est remixée tout récemment par un de vos artistes, Sébastien.
Qui a même produit tout le disque.
Ouais, qui a produit le disque.
Et donc la French Touch était quelque chose d'ancré dans cette fin des années 90. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on peut couper le cordon, c'est ce que je répète assez souvent en disant que la génération actuelle superpose Jacques et tous ces jeunes artistes n'ont pas forcément besoin de se proclamer les héritiers de Daft Punk et compagnie. Et donc à eux, encore une fois, d'écrire cette nouvelle, ce nouveau chapitre.
L'instant Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg, album produit par Sébastien, un artiste du label de Pedro Winter, Headbanger, qui est mon invité ce soir jusqu'à 20h30 en Soft Power. C'était d'ailleurs la victoire de la musique 2018 pour meilleur artiste féminin. Zoé Sfez.
Mais justement, vous en parliez à l'instant, vous disiez qu'effectivement cette French Touch désigne ce moment-là des années 90. Là, je relisais un article de Libération 2007, c'est hyper intéressant, qui parle de Justice, parce que ça a été où on parle du retour de la French Touch à ce moment-là, et c'était déjà il y a 10 ans. Il y en aura peut-être un, il y en aura re-eu. Comment est-ce qu'elle va cette musique électro? On a posé la question, vous parliez du rap. Le rap, on a Maître Gims qui maintenant est reçu au journal de TF1, qui fait des duos avec Vianney, qui disait le rap finalement c'est devenu la pop, c'est devenu la variété d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils existent les rapports entre l'électro et justement la scène, disons, majoritaire? Est-ce que c'est pas finalement la même chose?
C'est super intéressant. Il y a justement, et c'est avec DJ Mehdi, on parlait souvent de ça. On nommait les gardiens du temple. Alors, est-ce que je pense pas que nous sommes nous les gardiens du temple, mais en fait, on a une vision de passionnés vis-à-vis de cette musique électronique qui fait qu'on a besoin de classifier les choses. Et effectivement, cette musique, tout à l'heure vous parliez de l'EDM ou de la musique un peu plus
dance,
mainstream, dance.
Grand succès d'Avicii qui
voilà,
qui,
mais moi, qui nous on se sent très très
vous
très
loin.
Loin
de ces gens-là.
On se sent très très loin de ce.
Pourquoi
de...
Parce que c'est trop commercial.
Non, mais alors le problème n'est pas le problème en fait, et c'est ça qui des fois il faut comprendre, c'est pas un problème de commercialité. Nous, moi je rêverais.
Oui, là on écoute Justice, c'est commercial et grand public.
Mais c'est grand public et commercial, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, Justice arrive à remplir Bercy et on est fiers de réussir à réunir 17 000 personnes. Et en même temps, on ne vend pas des millions de disques. On n'est pas joué sur toutes les grandes radios nationales. Donc on reste quand même un peu en marge. Et il y a ce côté alternatif musical qui fait la différence. Et ce n'est pas un jugement de valeur ou un jugement de qualité. Hein. Moi, je suis tant mieux pour... que Fun Radio remplisse Bercy avec des artistes plutôt EDM, mais donc il y a une différence, il y a des héritages aussi musicaux, il y a un attachement à cette culture qui vient de Chicago, qui vient de Détroit, qui vient de New York, qui est une musique cette house music, voilà, qui nous
vous aimez nous le mot d'ailleurs house music.
Bah bien, parce que c'est l'héritage premier. Nous on,
c'est la base. Ouais.
Moi j'ai 43 ans aujourd'hui. Moi j'ai découvert la musique électronique au tout début des années 90, et à ce moment-là
vous la mixiez au Palace notamment.
Je travaillais au
grâce
Palace
au couple David Guetta et sa femme.
Exactement. Donc voilà, donc c'est un attachement à, alors des valeurs, on va pas rentrer non plus dans ce genre de considération, mais c'est un attachement à une histoire, à une certaine forme de vision. Il y a aussi cette envie de métissage, de mélange des genres et des gens. Et voilà, qui n'est pas ce que peut revendiquer certains de ces artistes, ou même ne serait-ce que musicalement. Musicalement, c'est autre chose.
Marjorie Paillon.
En parlant de valeurs justement et de revendications, je sais que ça vous irrite beaucoup quand on dit que l'électro n'est pas engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, Pedro, on peut faire engager l'électro? Est-ce que l'électro peut, pourquoi pas, susciter des projets humanitaires, des projets politiques? Est-ce que d'ailleurs c'est une musique politique en soi?
C'est une musique qui est politique dans son essence, dans son, encore une fois, pour revenir à son ADN, j'arrête pas de le répéter depuis le début de l'émission. Il faut pas oublier que c'est une musique qui est née dans les clubs gays noirs aux États-Unis, et ensuite qui a été qui a ouvert ses portes. Moi, j'ai commencé, en tout cas, à l'époque, à Paris. Alors, j'étais un peu trop petit pour le boy, mais au Folies Spigale ou au Palace, c'était des soirées gays dans lesquelles nous, on allait. Et finalement, c'était ces DJ-là qui nous ont fait découvrir cette musique. On se mélangeait. Il y avait une envie, il y avait une volonté, il y avait un hédonisme, il y avait une envie de liberté, encore une fois, de mélange des genres. Donc, est-ce que c'est politique ou pas? Oui, c'est politique. Mais après, on n'a pas besoin de sortir avec des pancartes. Mais c'est une envie. Et aujourd'hui, c'est fou de se dire en 2018 que, tiens, ça pose des problèmes à certains, le mariage pour tous. Ça pose. Donc oui, c'est une musique qui porte un message. Qui
avec une rêve partie qui, ce week-end, a été en partie interdite, etc. Donc ça continue.
Mais ça aussi, c'est la liberté. Alors, c'est le fameux Technival là, qui fête ses 25 ans, qui est aussi une autre frange de cette culture, mais qui est importante. Qui est encore une fois une envie de liberté, de aussi vis-à-vis des autorités, de dire que certains organisateurs sont capables de prendre leurs responsabilités et que tout n'a peut-être pas besoin d'être encadré. Ça fait aussi partie ça.
C'est votre tatouage. On dit que vous avez un tatouage PNL, la Pleasure No Limit, c'est-à-dire profiter de la vie.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais,
vous n'êtes pas obligé de quitter votre t-shirt tout de suite. Il y a pas.
Vous avez un tatouage avec la Tour Eiffel et une jeune femme qui l'enlace.
C'est vrai.
C'est presque la French Touch. Je me suis dit ça quand je vous ai vu.
C'est vrai. Non, ça c'est mon amour pour ma belle ville et cette sublime Tour Eiffel. Mais Pleasure à nos limites, ouais. Ça effectivement, ça va dans ce sens de
profiter de la vie.
Profiter de la vie, exactement.
Zoé Svez.
Alors justement, vous le disiez, c'est intéressant comme à la fois vous parlez du Technival, vous parlez de l'EDM et vous montrez qu'à la fois cette scène qu'on dit électro et qui est comme si c'était un grand mot valise, elle est très riche, elle est très différente. Sur le modèle justement des Daft Punk et sur la volonté ou pas de rester à la marge, vous l'avez dit, c'est une très grande carrière celle des Daft Punk et en même temps c'est une grande économie de la rareté, on l'a compris depuis longtemps. C'est aussi des gens qui effectivement eux déjà avaient eu recours à des orchestres. C'est parmi peut-être les premiers à l'avoir fait. Évidemment, quand on les attend sur un grand disque d'électro, ils arrivent avec un disque avec de la musique acoustique. Vous parliez des disques dans cet article de 2007, donc on est déjà il y a très longtemps. On dit que les maxis se vendent entre 500 et 1000 exemplaires en 2007 et que Justice, à l'époque, faisait figure de best-seller avec 20 000. En l'occurrence, aujourd'hui, est-ce qu'on vend encore des disques ?
On en vend encore plus, il paraît. Donc c'est bon signe. Alors on vend plus de disques physiques, en tout cas les vinyles. Il y a un retour. Il y a un retour, alors
qui vous concerne vous aussi ?
Qui nous concerne évidemment, mais encore une fois. Derrière, c'est quoi l'expression ? Derrière la forêt se cache.
L'arbre se cache.
Voilà.
on ne sait plus.
On ne sait plus dans quel sens. Et malheureusement, c'est.
La forêt, c'est quand même Spotify, Deezer, voilà. Qobuz et Apple Music.
Alors ça, on viendra après sur ce sujet-là. Mais en tout cas, pour le vinyle, il y a une opération que vous avez certainement suivi chez France Culture. C'est le Disquaire Day qui était à l'initiative au début de soutenir les labels indépendants et les disquaires indépendants pour inciter les gens à revenir chez leur disquaire, acheter des disques. Et là, malheureusement, ce Disquaire Day s'est fait dépasser par les rééditions, les repressages. Alors super, on peut tous se racheter Alphabet Street de Prince, on peut se racheter un bon Led Zeppelin en 180 grammes de très bonne qualité. C'est génial, mais malheureusement, 70% de ces disques en vinyle sont achetés simplement pour de la déco. Personne ne les écoute. Et malheureusement, les labels indépendants que nous sommes, on n'arrive plus à faire presser nos disques puisque les usines sont débordées par les majors qui refont presser leurs disques.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h36, mon invité ce soir est Pedro Winter, le patron d'Headbanger, le principal label d'électro-musique français, un peu un des symboles de la French Touch, sinon le symbole de la musique française, qui s'exporte. Dans cette deuxième partie d'émission, parlons maintenant des modèles économiques, y compris à l'international, puisque vous êtes très, très fort dans ce secteur. Comment est-ce que la French Touch, comment la musique peut s'exporter davantage, la musique française, et vous en êtes un des exemples, et quels sont les modèles économiques qu'elle peut trouver pour se développer, selon vous ?
Alors d'abord, la performance, les concerts, les tournées, c'est quand même le...
Donc ça, c'est le nerf un peu de la guerre financière désormais de l'industrie du disque ?
Alors, c'est à la fois le nerf de la guerre et c'est aussi surtout un bonheur artistique d'aller comme ça visiter le monde entier, puisque la France est magnifique, mais... Le monde est encore plus beau.
Plus grand, voilà. plus grand.
Et donc, voilà. Et
nous, plein de richesse.
C'était 20%, 80%, c'était 80-20 à peu près le ratio de dire les revenus, 80% à l'étranger et 20% en France. Donc, il y a cet aspect-là de la tournée. Il y a beaucoup de festivals qui sont demandeurs de plus en plus d'artistes français. Il y a de plus en plus de festivals. Bon, on le sait nous-mêmes en France, puisque la liste ne fait que s'agrandir chaque année. Et c'est pareil dans le monde entier. Maintenant, il est possible d'aller en Californie et de faire 4 festivals, voire 6 festivals par an. Alors qu'avant, il y en avait un. Il y a la tournée. Après, les ventes de disques, ça dépend aussi...
du genre de musique qu'on fait.
Du genre de musique. Nous, concernant la musique électronique, ça reste quand même assez marginal. En tout cas, que ce soit les ventes physiques ou le streaming.
Marjorie Paillon.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, après... je vais prononcer un vilain mot, après 15 ans de disruption technologique, la musique a fini par comprendre que justement le numérique pouvait devenir son allié, tout simplement parce que ça permet en effet, entre l'écoute en ligne, entre l'acte d'achat en ligne, entre le streaming, entre le fait d'acheter quand même un album ou un vinyle, les ventes ont bondi de 23% cette année d'ailleurs, et le fait d'aller voir un artiste en concert ou en festival, on a un véritable consumer journey, c'est-à-dire vraiment une expérience utilisateur, une expérience auditeur qui se développe sur l'ensemble de la chaîne. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on a vraiment l'impression que ça y est, l'industrie musicale s'est réconciliée avec ses propres consommateurs et qu'ils leur font à nouveau confiance et engagés pour un artiste, engagés pour des producteurs, engagés pour des tourneurs sur des lieux comme les festivals, comme les concerts. Ça permet aussi à un moment donné de pouvoir toucher à nouveau cette réalité du doigt. Ça, c'est la première chose, c'est la première bonne nouvelle. La seconde, pour vous donner quelques chiffres, notamment sur l'export de la production française, très bel export, boom en 2017. Ce sont des chiffres qui sont notamment donnés par le Bureau Export, qui est l'institution qui s'occupe de suivre
publié,
la filière
publié
française
dans le JDD ce
à l'international,
matin.
Absolument. Le top 5, et ça va faire plaisir à Pedro. Numéro 1, c'est Kongs pour Layer, chez Universal Music. Numéro 2, Justice pour Cross. Le numéro 3, c'est Maître Gims pour Mon cœur avait raison chez Sony Music. Quatrième place, Jane pour Zanaka, toujours chez Sony Music. Et en 5, Mum pour Panorama chez Universal. Ce qu'il faut dire, c'est que cette stratégie aujourd'hui pour les artistes français, elle est directement globale, elle est directement mondiale. On ne va plus penser en termes de marché français uniquement. On va se dire, par exemple pour Universal qui s'apprête, qui peaufine le prochain album de Jane, à se dire, ok, on va le lancer simultanément aux États-Unis, UK, Australie, Europe et Inde. Inde pourquoi ? Parce qu'elle a décroché un disque d'or sur son premier album en Inde. Est-ce qu'il faut penser mondial, Pedro ?
Bah oui, mais quoi, moi je vous avoue, c'est une question qui me...
Qui se pose même pas, oui.
Nous on pense mondial depuis 1997. Donc,
et comment on fait pour faire ça ? Ça veut dire qu'il faut pas chanter en français.
Non, mais justement, elle est marrante cette question. Justement, l'autre jour, je soulignais, on me parlait un peu de la scène française, et moi, j'ai bien connu justement ce fantasme des groupes français qui voulaient absolument chanter en anglais pour s'exporter. Chapeau à Phoenix qui a réussi, mais malheureusement, il y a eu 27 faux Phoenix qui se sont plantés. Aujourd'hui, quand je vois Moudoïd, Juliette Armanet, Charlotte, elle chante à la fois en français et en anglais. Angèle, elle est plutôt belge, mais bon, il y a plein d'artistes, en tout cas francophones, qui revendiquent la langue française.
Et Edith de Préto, Christine and the Queens, qui ont montré aux États-Unis.
Ils ont fait un superbe album en anglais. Voyons la suite. Est-ce qu'elle va assumer son côté français sur le prochain? Ça, j'en sais rien. Mais donc c'est assez intéressant. Nous, ça a été assez naturel. En fait, moi, j'aime bien aussi remettre les choses de façon spontanée.
L'électro, il n'y a souvent pas de paroles, donc déjà c'était assez facile.
Déjà, effectivement, c'est plus facile de s'exporter avec une chanson Around the World répétée 27 fois. Et effectivement, c'était plutôt une beaucoup plus simple que les chansons à texte. Mais justement, la donne change. Là, j'ai vu IBI à Coachella, donc elles font à la fois du français et de l'espagnol et de l'anglais. Donc après c'est aux artistes aussi, voilà, de rester eux-mêmes, ensuite de s'adapter, d'essayer des choses, mais c'est de façon très naturelle.
Allez, d'autres chiffres, cette fois-ci mondiaux, puisque c'est la Fédération internationale de l'industrie phonographique qui révélait son bilan 2017 cette semaine. Eh bien, l'industrie musicale a le vent en poupe. 17,3 milliards de dollars de revenus en 2017. Rien que ça, le revenu en hausse, surtout grâce au streaming, plus 8,1% pour la consommation numérique de musique. Alors, on a vu d'ailleurs au tout début du mois d'avril Spotify s'introduire en bourse. Par la petite porte, certes, mais avec quand même une valorisation à 30 milliards de dollars dans la même journée.
Et une action à 165 $ d'un coup, donc c'était
absolument
bien
pas
réussi.
Mal. Est-ce que finalement les nouveaux maîtres du jeu, ce sont les streamers ?
Alors, malheureusement, parce que c'est toujours délicat finalement. Encore une fois, là, je parle de façon très très spontanée. Hein, je maîtrise absolument pas tout ce
malheureusement.
Ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est malheureusement, puisque c'est toujours triste, le monopole. Voilà.
Oui, mais là, il y a Spotify, il y a Deezer, il y a un peu Qobuz, il y a Apple Music.
Il y a plus Spotify que tout le reste.
Alors, je laisserai Marjorie filer les chiffres, mais à mon avis, quoi.
Il y a au moins Spotify, Apple Music, Pandora, et puis beaucoup de modèles chinois, japonais, arabes.
Alors, si je puis me permettre, si Madame Chiffre peut se permettre, en l'occurrence, en effet, Spotify est leader incontesté en Occident. Quant au marché
159
chinois,
millions d'abonnés. Ouais.
159 millions d'utilisateurs, 71 millions d'abonnés payants. Donc, on relativise quand même le modèle économique de Spotify, en l'occurrence, puisque c'est une boîte qui continue à perdre de l'argent aujourd'hui, malgré la personnalité incroyable de Dan Alec, qui est son fondateur. Mais c'est surtout que Spotify s'est allié à Tencent Music en Chine pour pouvoir obtenir 70% du marché. Donc, on est quand même, en effet, sur un modèle qui reste fortement centralisé, même si on a Google Music, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Deezer. Deezer, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 14 millions d'abonnés aujourd'hui.
Ouais, c'est un peu... 10 fois moins. Quoi.
On peut dire ça.
On peut le dire.
Donc c'est important, en tout cas, nous, labels et producteurs, effectivement, de parler à toutes ces différentes plateformes. Mais après, il faut penser aussi alors aux consumers et à la façon dont les gens écoutent.
Mais si on revient encore en arrière, il y a 15 ans, lorsque vous créez Headbanger, au même moment, pratiquement, enfin un petit peu avant, une nouvelle page de la musique s'ouvre, c'est l'iPod qui est lancé, et c'est en octobre 2001. On est 15 ans après, on a eu des hauts, il y a eu des bas. Aujourd'hui, la musique a retrouvé ses bases, notamment économiques, notamment grâce au streaming. Donc,
mais ça, c'est, alors ça, c'est l'époque.
Vous disiez malheureusement, au fond, heureusement, non ?
Non, mais alors, encore une fois, le heureusement, il vient. Le heureusement, le seul truc qui m'intéresse, c'est pas tant l'économie, c'est la consommation de la musique. Et quand je dis consommation, pour rester dans le vif du sujet, ce qui m'intéresse, c'est l'écoute. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, finalement, la musique, elle est partout. Maintenant, encore une fois, elle est partout. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Il faut savoir comment l'écouter. Est-ce qu'on l'écoute sur nos petites enceintes de téléphone? Ou est-ce qu'on les écoute sur nos enceintes portables sans fil? Est-ce qu'on les écoute sur des bons casques? Est-ce qu'on l'écoute tous dans le métro et on se parle plus? Il y a encore
une fois des choses. Parce qu'on se parlait dans le métro avant.
Bah, au moins on se regardait.
On peut toujours se regarder, même en écoutant de la musique.
Je pense qu'aujourd'hui, on se regarde plus dans le métro. Donc voilà, tout, il y a toutes
ces choses. Quels sont les autres modèles économiques que vous voyez émerger? Vous avez réussi particulièrement bien dans le merchandising, on appelle ça, notamment avec des marques. Je pense à votre marque, les marques de vêtements Club 75. On peut parler aussi des expérimentations avec Galerie Lafayette, etc. Les sneakers et d'autres choses. Oui. Comment est-ce que vous voyez les évolutions économiques du secteur?
La diversification, l'idée c'est ça, c'est encore une fois de vivre avec son temps. Aujourd'hui, on a la capacité de s'exprimer avec des t-shirts, des casquettes, faire des projets avec des marques, toujours en ayant en tout cas l'envie de créer quelque chose, en tout cas de laisser la création au centre de cet échange-là.
Un mot sur les vêtements, juste. Ouais. C'est quoi le style, au fond, le style que vous voulez défendre? J'essaie de le définir. Alors j'ai demandé aux geeks et aux artistes jeunes qui étaient autour de moi. Alors
il y en a qui m'ont dit. Les artistes, ça fait plaisir.
Ils m'ont dit c'est le style californien cool. Un autre qui m'a dit le California dude. Troisième m'a dit un peu skater. Un autre m'a dit hipster. On m'a dit camp. Hein, Suzanne Sontag, n'oubliez pas. Geek, nerd, hacker, c'est quoi le style Burning Man? Comment on le définirait, votre style?
Non, je sais pas. Effectivement, il y a certainement le côté peut-être ado éternel, mais encore une fois, la paternité et l'âge fait que de temps en temps, je commence un peu à me dire bon, il serait peut-être temps que je mette des chemises quand je reçois la médaille du chevalier des arts et des lettres. Est-ce que je vais me saper? Ben non, finalement, ben je reste comme je suis. Je me sens bien en basket.
Vous l'avez porté d'ailleurs. Vous êtes avec la médaille, j'ai vu, sur votre t-shirt aujourd'hui.
Alors, j'aimerais bien. Non, alors j'ai pris les petits insignes.
Les petits insignes rouges qu'on met dessus.
Vert.
Ah oui, vert.
Qui vous l'a donné?
Audrey Azoulay.
Ministre de la Culture.
Ministre de la Culture.
Un autre, la synchro. Vous voyez ça, on a beaucoup parié sur la synchro, et c'est quoi d'abord?
Alors, est-ce que ça continue à marcher? Expliquer aux auditeurs, ce qu'on appelle la synchro, c'est le placement de musique dans un film ou dans une publicité, et il faut dire que c'est très rémunérateur, puisque vous pouvez imaginer que lorsqu'une campagne pour une grosse marque d'automobile que je ne citerai pas, les agences, en tout cas la marque est prête à payer des centaines de milliers d'euros, voire le million quand c'est des gros artistes comme Rihanna ou Beyoncé, quoi.
Pour continuer justement sur cette question de la synchronisation, qui est une véritable palette de monétisation assez formidable pour l'industrie de la musique, il y a aussi de la synchronisation sur la partie co-création avec l'industrie du film, avec l'industrie de la télévision. Ça permet notamment à de jeunes artistes d'émerger, de se faire connaître. Est-ce qu'on peut envisager la synchronisation finalement comme un levier de découverte de talent?
Complètement. C'est une... là, pour prendre un cas précis, pas si lointain que ça, mais un des derniers artistes qu'on a signé, qui s'appelle Mid, a fait la musique de Petit Paysan, nommé au César. Il s'est retrouvé comme ça, du jour au lendemain, avec son petit nœud papillon à la cérémonie, entouré de grands compositeurs. Donc, c'est bien aussi. D'un coup, il a eu la lumière sur lui. Il avait déjà sa carrière. Hein,
Mid, que l'on écoute justement.
En plus, mais dis donc, on est synchro, cette émission.
Tout est synchronisé. C'est
on a mis de la musique pour vous ce soir.
Magnifique.
Week-end du 1er mai. On l'écoute un peu. France Culture en direct, 19h, pratiquement 50 minutes sur France Culture. Mon invité ce soir, Pedro Winter, dans Soft Power jusqu'à 20h30, manager, patron de Headbanger, le label de la French Touch, et en tout cas de nombreux artistes de musique électro que l'on écoute d'ailleurs en bande-son tout au long de cette émission ce soir. Une question, Zoé Sfez.
Oui, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette nouvelle économie avec le streaming, bon, quand même, on peut dire que vous êtes les moins malheureux, parce que finalement, comme vous le disiez, vous avez peu de paroles en français. Vous aviez déjà, avant l'avènement du streaming, une économie qui était déjà beaucoup basée sur le live et sur la présence dans les festivals. Donc finalement, vous étiez peut-être les mieux préparés pour vous y conformer à cette nouvelle configuration. Et en plus, on sait qu'on écoute pas mal d'électro en streaming plus que de la chanson française. Mais puisqu'on parlait effectivement du live, vous l'avez dit, en France, il y a beaucoup, beaucoup de festivals qui fleurissent. Vous avez dit que sur le streaming, vous étiez contre le monopole. Or, en France, on a de plus en plus comme ça de grands congrégats, de gens qui possèdent à la fois des radios, des festivals, etc. On ne va pas les nommer, il y en a quelques-uns. Il y a un vrai tirage de bourre, on va dire aussi, sur les têtes d'affiche à l'électro. Et pourtant, on n'a pas de Coachella à la française. Est-ce qu'on en a un? Ça pourrait être qui? Comment est-ce que vous regardez ça?
C'est marrant, je pense... Alors, c'est délicat, parce que
c'est des gens qui vous collaborent, finalement.
C'est des gens avec je collabore, mais en toute franchise, je pense que Will of Green, bon, et notamment avec cette affiche cette année assez incroyable. Pour vous dire, je connais même pas les dates de Will of Green, donc, mais en tout cas...
Vous connaissez celle de Coachella, puisque vous en revenez, ouais. Chacun son...
Mais Will of Green,
C'est quoi les festivals en France où il faut aller?
J'ai passé un très bon moment. Je les ai à peu près tous faits, mais les classiques quand même, Belfort, Vieille Charrue, c'est quand même des choses à vivre... C'est nos festivals français dont on peut être fier. Et justement, je pense que le fantasme californien de Coachella est génial, mais Coachella, c'est Coachella parce que c'est en plein milieu du désert californien à côté de Palm Springs.
Indio,
la ville.
Et Will of Green, on a dit que d'ailleurs c'était le festival californien de Paris. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon?
Bah alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la programmation va dans ce sens-là, en tout cas de mélanger les découvertes et des artistes plus. Il y a Bio. York, il y a Migos, il y a The Internet, il y a Tyler the Creator. Donc il y a un pari, une envie, en tout cas.
Et les clubs, quels sont les clubs? Je crois que vous citez parfois Audio Club à Genève, Contact à Tokyo, Bain à New York et non plus à Paris. Il y a encore des clubs à Paris. Et qu'est-ce que vous diriez, par exemple, on avait tout à l'heure Bruno Julliard, l'adjoint à la culture de la ville de Paris. Qu'est-ce que vous diriez à Anne Hidalgo pour que la scène électro existe à nouveau à Paris?
Alors, qu'est-ce que je dirais à Anne Hidalgo? Salut Anne. Salut Anne, c'est Pedro. Alors, non, okay, je me garderai bien de donner des conseils à des gens qui ont des compétences bien plus... qui s'y connaissent mieux que moi. Non, j'ai absolument rien à leur donner. Je pense que la scène club parisienne se porte plutôt pas mal. Donc
surtout dans l'indépendant, les petites salles sont très vivantes.
Mais ça se passe très bien. Et je pense que je suis pas vraiment dans les institutions, dans les lobbies, dans les associations, dans les trucs comme ça. Je suis assez loin de...
Vous êtes encore à la SACEM ou parce qu'on...
Oui, on est à la SACEM.
Il y a eu une grande et longue bataille entre Daft Punk et la SACEM. Il y a longtemps, avant même votre...
Ça, c'était leur combat
initial.
Ils ont trouvé un arrangement avec la SACEM. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec la SACEM, au contraire.
Oui, mais vous faites même des rapports avec Jean-Noël Tron, etc.
Alors, je fais des rapports. J'assiste à des réunions. Encore une fois, j'ai malheureusement pas le temps de faire des rapports pour la SACEM.
Puis on dit que vous lisez pas.
Dans
les qualités
non,
que vous avez,
c'est
vous qui l'avez dit. Ouais. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, ce qui est quand même tout ça assez étrange dans cet univers de la musique électro.
Mais
vous ne lisez pas non plus.
Ouais, mais c'est pourtant, je m'y suis mis là.
Ouais. C'est la
mieux vaut tard que jamais.
Marjorie la lecture Payon. De la maturité. Alors, on parlait de programmation tout à l'heure. Moi, je vous emmenais sur une autre piste de programmation, celle de l'intelligence artificielle, puisqu'en janvier sortait Hello World, le premier album issu de la collaboration entre des compositeurs et une intelligence artificielle développée par François Pachet, qui est un ingénieur pour le laboratoire de Sony CSL, qui aujourd'hui a d'autres responsabilités d'ailleurs chez Spotify. Mais tout l'intérêt du projet était justement de faire collaborer cette intelligence artificielle avec un compositeur, Skig par exemple, ou la chanteuse Kessa, Stromae aussi a participé au projet. Et je crois qu'on vous avait proposé d'y participer, Pedro.
Ah mais j'adore cette interview, Marjorie, parce que
vous
me donnez les clés. De...
Moi, j'ai dit monsieur en ouverture.
Alors,
Monsieur Pedro.
Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai collaboré avec Flow Machine il y a un an. J'ai sorti un single qui s'appelle Genie et j'ai demandé à Flow Machine de remixer mon single. Mmh. Donc, c'était une expérience assez intéressante.
On a prévu de l'écouter à 19h58.
Hein. Le morceau original ou le remix ?
Le remix.
Ah, bah, super. Donc, bah, voilà. Donc, on est encore une fois dans les temps. Donc, c'était une expérience. Bon, c'était plutôt un clin d'œil, l'idée de se dire, tiens, on va confier à un ordinateur les éléments séparés d'un morceau et voir ce que l'ordinateur va nous recracher. Ça, c'est le côté expérimental, assez marrant, sci-fi de la chose qui nous excite, génération Spielberg, disons.
Mais concrètement, en termes de création, est-ce que ça change quelque chose ?
Alors non, ce qui me gratte dans cette information, c'est le côté Spotify et le côté, parce que j'ai appris très récemment, et ça m'a fait peur, moi qui aime l'humain et la sueur et les larmes, j'ai appris que maintenant, on faisait de la musique selon certains algorithmes.
Et oui.
Et donc, on y vient. Oui. C'est-à-dire qu'à tel moment, il y aura ce moment de trompette, à tel moment, le kick va rentrer, à tel moment, il y aura une nappe de piano, à tel moment, cette fille
fera...
On va l'appeler
Pedro Winter, l'algorithme. Oui. Ou alors...
Merci. Et là, c'est assez flippant, ce genre d'information.
Et en plus, évidemment,
quoi.
Ça veut aussi dire que Spotify détient les droits de ses musiques et qu'il peut même les placer avec son propre algorithme. Et donc, en plus, j'ai envie de dire, produire son propre contenu, le présenter à ses utilisateurs à peu près quand il le souhaite. Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous gardez la conviction
1984,
final...
là.
Conviction que finalement, ça ne marchera pas? Alors,
on sait
qu'ils n'ont pas communiqué dessus, mais qu'en réalité, il y en a déjà et qu'ils ont déjà tiré plusieurs millions de revenus de ce qu'ils avaient eux-mêmes produit, avec notamment de l'intelligence artificielle.
C'est pas tant des convictions, c'est des rêves, en fait. Et c'est là aussi, nous, il faut garder notre naïveté, notre spontanéité de producteur et d'artiste, de se dire, tiens, on a envie de faire des choses avec le cœur, de façon différente, et peut-être rester un peu en marge, essayer de proposer des choses un peu différentes, que ça marche ou pas. En tout cas, moi, je me place plus de ce côté-là, de l'expérimentation, plus que d'aller faire de la musique avec des chiffres et des additions. Quoi.
La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé cette semaine, au printemps de Bourges, c'était le 25 avril, le lancement du Centre National de la Musique. Ça vous fait plaisir ? Vous découvrez ce que c'est.
Oui, je dois avouer, je devrais être un peu plus soucieux.
C'est un bon résumé à la fois de l'émission, mais aussi du label. Vous êtes un peu à la marge ou ailleurs.
Ouais, mais après, moi, je serais ravi d'écouter de temps en temps peut-être un peu plus tout ce qui se passe dans les ministères. Et en même temps, c'est bien aussi qu'on soit un petit peu en marge, qu'on soit loin de tout ça.
Et puis très busy, très occupé.
On est pas mal occupé. Et après, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. La musique électronique, encore une fois, elle est assez récente. Et pendant des années, on n'a pas été écouté ou on n'a pas été, disons, pris au sérieux. Et effectivement, il y a une prise de conscience institutionnelle assez récente qui d'un coup veut s'emparer d'un courant et d'un mouvement qui s'exporte. Donc.
Mais est-ce que concrètement il faut un CNC de la musique ? Est-ce qu'il faut, à un moment donné, pouvoir fédérer certaines aides à l'industrie musicale ? On sait que si on caricature de façon très schématique l'industrie de la musique, c'est l'industrie libérale avec des loups qui hurlent en bas de votre porte, par rapport à l'industrie du film ou de la télévision qui est quand même largement aidée par des subventions financières. Est-ce que finalement un coup de pouce, ça vous aiderait à un moment donné ?
Je pense, mais en même temps, il faut pas oublier que le monde du cinéma a l'air tellement sclérosé, tellement
tenu
par 12 personnes.
Il faut pas que ce soit pareil pour la musique.
Je pense pas.
Ça
je pense, ouais, je pour, pense que pour, la musique a besoin de liberté.
Pour terminer, Pedro Winter, vous étiez mon invité ce soir, patron, manager du label Headbanger.
Jusqu'à minuit, puisqu'on a plein de choses à dire.
On a plein de choses à dire. Ça veut dire quoi, Headbanger, par ailleurs? Headbanging, c'est
alors,
quoi?
Bah, c'est un mouvement de la tête, le headbanging, qui est au début associé à la culture du métal, aux fans de Metallica et de Motorhead, et finalement on peut remuer de la tête tout en écoutant du Beethoven, du Public Enemy, du Led Zeppelin et pourquoi pas du Maître Gims, hein, je vous entendais parler
de Maître Gims tout à l'heure. Vous avez entendu au cours de cette émission qu'on a diffusé au moins une dizaine de morceaux de votre label. La liste complète est à trouver est à trouver sur la liste sur notre page sur Facebook ainsi que sur le site de France Culture. Merci infiniment, Pedro Winter.
Merci de m'avoir reçu, de nous donner la parole, puisque on se sent très bien ici dans cette belle maison de la radio.
Il fait bien chaud là ce soir en plus. On a mis la température, on a mis le chauffage. Pour aller plus loin sur Ed Banger, sur Pedro Winter et sur Busy P également, puisque c'est votre nom d'artiste, consultez articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et sur notre page sur le site de France Culture. Dans un instant, la seconde partie de Soft Power avec à 20h10 le débat le numérique et politique. On parle ce soir de l'Europe, qu'est-ce qu'elle peut faire en matière de numérique et du règlement général pour la protection des données. Dans un instant à 20h, Zoé Sfez.
Arnaud Delataille, que je reçois, est le fondateur d'une plateforme qui est destinée à aider les associations à faire de la gestion tout bêtement, et ça marche très très bien. Ça s'appelle Asso Connect, ça a été lancé en 2014 et on en parle avec lui.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre après un génie du label Headbanger, Pedro Winter lui-même, alias Busy P. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
France Culture. France Culture, c'est Soft Power jusqu'à 20h30, il est 20h01.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Arnaud Delataille.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité innovation, car vous êtes le fondateur avec deux amis à vous. En 2014, vous avez fondé une plateforme. Alors, qu'est-ce que vous dites? Une start-up, une plateforme? C'est quoi le terme que vous préférez utiliser?
Oui, c'est une plateforme en ligne.
C'est une plateforme en ligne d'aide à la gestion qui est destinée tout spécialement à aider les gens qui font partie d'associations, les bureaux des associations, à faire leur gestion, à faire toute une partie des tâches administratives que parfois, même la plupart d'entre elles, quand il s'agit de petites structures, ne savent pas très bien, voire ne font pas parfois par manque de temps. Alors vous aviez déjà, avec ces deux acolytes, déjà fait une première entreprise, mais alors là, vous êtes lancé avec, donc disons, pour clients, pour cibles, ces associations. Pourquoi vous étiez quasiment les premiers à le faire, à vous intéresser à tout ce secteur, à tout ce domaine qui est celui de l'associatif en France et dont on sait qu'il est très vivace? C'était quoi le constat?
Alors effectivement, on a lancé Asso Connect avec Pierre et Sylvain, qui étaient deux associés avec lesquels j'avais déjà créé une boîte dans le web avant. Et tous les trois, on était impliqués en association et on avait fait le constat qu'il y avait un manque énorme d'outils informatiques, d'outils qui permettent de faciliter toute la gestion. Donc les associations, elles avaient commencé à s'équiper avec des sites internet, puis depuis quelques années avec des outils de collecte en ligne, du crowdfunding, etc. Mais tout le volet de gestion était complètement oublié et c'est à ça qu'on a cherché à répondre.
Alors justement, vous l'avez dit, la fintech, ce qu'on appelle la fintech, donc on va dire toutes ces startups qui travaillent sur la question de la finance et de la monétisation, elles se sont toutes ruées en masse sur le crowdfunding, qui est quand même devenu un espèce d'eldorado avec toute une foule de plateformes un peu différentes les unes des autres, qui a effectivement, vous l'avez dit, largement impacté le secteur associatif. Et pourtant, les startups, elles ne se sont pas beaucoup intéressées aux associations. Pourquoi, d'après vous, et comment ça se fait? Et même dans les pratiques, effectivement, l'association, comme pour se différencier d'un monde capitaliste et justement d'un monde qui est basé sur le profit, a peut-être évité ces questions-là, ces questions de la digitalisation?
Oui, alors c'est vrai que les associations, c'est un peu le parent pauvre du digital jusqu'à présent. Les startups sont principalement intéressées au crowdfunding et à la collecte en ligne, mais pas du tout aux aspects de gestion. C'est principalement dû à plusieurs préjugés. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les associations, alors que c'est un secteur économique qui est colossal. Hein. C'est un secteur qui, socialement, a un impact énorme, mais aussi économiquement, puisque c'est 3,5% du PIB, c'est-à-dire que c'est plus gros que l'agriculture et l'agroalimentaire réunis.
Oui, et ça, on l'oublie, mais c'est intéressant de leur dire.
Et on l'oublie, mais c'est, voilà, les associations, c'est 10 millions de salariés. 10% des salariés en France. Alors, ça, c'est le premier point, c'est un aspect économique. Et puis, le deuxième aspect, c'est un aspect plus de préjugés sur la structure des associations qui ont l'air poussiéreuses. On pense qu'une association, c'est pas structuré, alors que c'est faux. Et c'est de plus en plus faux, puisque les associations, depuis quelques années, se sont énormément professionnalisées. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont eu une expérience dans le secteur marchand et qui ensuite, maintenant, s'impliquent en association. Des entrepreneurs, des gens qui étaient en entreprise avant et qui changent finalement la donne puisqu'elles apportent des outils et des manières de faire.
Venant du monde du privé.
Voilà, exactement. Alors, les associations sont des initiatives privées.
Toujours, toujours.
Les associations sont des initiatives privées, non lucratives. Et la deuxième tendance, c'est que il y a une forte professionnalisation liée au fait qu'elles doivent rendre des comptes. Oui. Elles doivent rendre des comptes à tout le monde, mais principalement aux financeurs et à l'État. Donc, aux donateurs, aux fondations, à l'État, elles doivent produire un bilan, un compte de résultat. Et on demande de la transparence, et ça nécessite des outils.
Et justement, ces outils, alors vous le disiez, elles ne les ont pas, ou alors en tout cas, c'est parfois compliqué. Donc vous, concrètement, quand on va sur votre site, vous pouvez essayer pendant 30 jours gratuits, vous cliquez sur le type d'association que vous êtes, et là, on va vous proposer toute une foule de choses qu'on peut faire avec vous, pour vous. Concrètement, ça marche. Comment et qu'est-ce que vous offrez comme service?
Alors, effectivement, quand vous vous rendez sur assoconnect.com, vous pouvez faire un essai gratuit. Et ça vous permet d'assurer toute la gestion. Donc on s'adresse aussi bien à des toutes petites associations, qui va être une association de théâtre par exemple, une association de culture, de loisirs, qu'à des très grosses associations ou des grosses fédérations. Et ça va permettre de gérer la totalité de l'association. Donc on en parlait, le site internet et la collecte, mais pas seulement. Également ce qu'on appelle du CRM, c'est-à-dire la gestion de toute ma communauté, tous mes membres, les bénévoles, les donateurs, les adhérents, savoir qui a fait quoi, quand, connaître mieux l'écosystème dans lequel je gravite. Et puis la comptabilité. Donc c'est un outil de comptabilité qui permet de produire un bilan, un compte de résultat, tous les documents sans aucune compétence comptable. Donc on retrouve sur cette plateforme de manière intégrée les outils de communication, de collecte, de gestion de mes membres et de comptabilité.
Alors justement, question avocat du diable, on pourrait se dire oui mais alors attendez, quand même les tableaux Excel existent depuis toujours, je pense une trentaine d'années comme moi, on l'apprenait même en techno quand on était à l'école. Et en plus, donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin particulièrement quand on est une association de ce type d'outil-là?
Alors c'est vrai que Excel est probablement l'outil le plus utilisé en association et encore de
ce
beaux jours.
Ce bon vieil Excel.
Voilà, et ça fonctionne quand même très bien, mais ça a des limites dès qu'on veut aller, par exemple, construire un bilan sous Excel, c'est quand même sacrément compliqué. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que c'est difficile de collaborer sur des outils comme Excel, alors qu'avec AssoConnect, vous pouvez collaborer en ligne et donner des droits d'administration aux différentes personnes de l'association. Et puis, ça permet de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que le trésorier qui a son Excel, qui connaît très bien depuis des années, qui part pour une raison ou une autre de l'association, finalement, dans l'association, plus personne ne comprendra ce qui se passait. Alors qu'avec un outil en ligne qui est partagé, ça assure une passation et ça inscrit l'association dans la durée.
Merci. Alors justement, vous avez eu des débuts, je crois, un peu, vous avez eu des clients très vite, vous m'avez dit, dès le premier jour. Et finalement, ça a commencé à marcher de mieux en mieux. Vous avez fait une levée de fonds de 2 millions d'euros, c'était l'année dernière, en 2017. Aujourd'hui, vous vous targuez d'avoir plus de 2000 clients. Ces 2000 clients, ils vous payent comment? Et principalement, aujourd'hui, c'est qui?
Alors, effectivement, on a passé les premières années d'AssoConnect à développer le produit et puis ça s'est accéléré depuis un petit peu plus d'un an maintenant, accéléré très fortement puisqu'on équipe un petit peu plus de 2000 associations et environ 150 nouvelles associations s'abonnent chaque mois. Donc le principe, c'est que c'est un abonnement qui est mensuel et ou annuel et qui dépend de la taille de l'association. Donc pour une petite association, ça va commencer à 19 euros par mois pour moins de 50 membres en base et puis jusqu'à quelques milliers d'euros par mois pour les très grandes fédérations.
Et sur ces clients, alors justement, c'est quoi le pourcentage de clubs d'échecs ou de clubs de théâtre et de grandes fédérations?
En termes de nombre, on a à peu près 80% des associations qui sont des petites associations qui payent moins de 100 euros par mois. et 20% qui vont être des plus grosses. Mais donc la très large majorité sont quand même des petites ou moyennes associations.
Et alors, vous le disiez, il y a quand même cette espèce de changement, disons, des temps dans le monde associatif. Donc vous, quand vous parlez d'association, vous parlez d'organisation à but non lucratif, c'est ça ? On
exact.
Entend bien ça. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec cette entreprise ? Parce que là, concrètement, ça marche plutôt très bien. Très certainement, ça va donner des idées à d'autres gens, probablement pour s'intéresser à ce secteur de l'association. Qu'est-ce qui vous reste à faire ? Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas aussi aller voir les TPE, par exemple ? Parce que vous parliez de la question de la simplicité. Ce que vous disiez tout à l'heure sur un trésorier qui s'en va et un tableau Excel qui le prend mal en compte, ça pourrait s'appliquer au CPE. Pourquoi est-ce que vous militez ou en tout cas vous voulez rester dans ce secteur de l'associatif ?
Effectivement, AssoConnect, ça pourrait très bien fonctionner pour des TPE ou pour des auto-entrepreneurs. Mais on a la volonté de rester sur le segment associatif parce qu'il y a un énorme besoin. Aujourd'hui, on équipe 2000 associations, il y en a 1,3 million en France. Donc il y a quand même énormément de place. Et donc non seulement il y a un énorme besoin, et puis on pense qu'en restant ciblé sur le secteur non lucratif, on est plus pertinent. On ne veut pas se disperser, et en proposant des outils vraiment dédiés à l'association, on va être meilleur puisqu'on adresse un public qui est vraiment particulier, qui parle à des donateurs, à des adhérents, qui a des besoins vraiment spécifiques en termes de comptabilité. Donc c'est un autre univers. Et c'est pour ça qu'on préfère rester concentré là-dessus. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses à faire en France et puis à l'international.
À l'international, puisque c'est prévu de vous lancer à l'international avant la fin de l'année 2018, c'est ça ?
Voilà, exactement. Alors, on équipe déjà quelques associations francophones à l'étranger, mais c'est vraiment marginal. Et l'objectif est de se lancer beaucoup plus fortement sur les assos françaises, francophones plutôt, à l'international, et puis les assos anglophones d'ici la fin de l'année.
Et pour en revenir quasiment au constat des débuts, vous le disiez, vous marchez bien, vous fonctionnez très bien. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans ce monde associatif, qui du coup finalement va finir par se digitaliser, par être un peu plus efficient. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, vous qui en parlez bien, qui dites bien qu'il a des spécificités ce secteur, si justement il devient attractif pour des gens comme vous, ou s'il devient attractif pour des entrepreneurs qui ne perdent pas un peu son âme aussi ?
Ah, c'est forcément un risque. Moi, je pense que c'est plutôt une extrêmement bonne chose qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont envie d'avoir un impact. Alors, on le voit avec le mouvement de l'ESS, il y a de plus en plus de monde qui cherche à changer le monde, qui cherche à changer la donne et qui s'intéresse à ces sujets. Et c'est une bonne chose que ce secteur soit mis en lumière et reconnu à sa juste valeur. Donc moi, je pense que ça va dans le bon sens. Ensuite, aux associations de rester vigilantes. Mais avec des outils comme AssoConnect, par exemple, ça leur permet finalement d'avoir davantage de temps à consacrer à leur projet, tant qu'ils étaient avant consacrés à des tâches administratives. Donc il faut les utiliser à bon escient, mais le digital, c'est un outil fantastique pour les associations.
Merci beaucoup Arnaud Delataille, donc fondateur de la plateforme d'aide à la gestion destinée aux associations, entendues comme des organisations non lucratives, AssoConnect, qui donc se lancera vers l'international, y compris les États-Unis.
Alors ça sera piloté depuis la France dans un premier temps, mais effectivement, y compris les États-Unis.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
20h12 précisément sur France Culture. Merci infiniment à vous deux, et à vous Arnaud Delataille et Zoé Sfez. Le temps de vous recommander une lecture. Cette semaine, une lecture, le portrait interview qui a duré quand même 8 heures avec Xavier Dolan que publie le New York Times ce week-end. Et ce qui est intéressant dans cet article et montre que des journaux comme le New York Times deviennent vraiment globaux, c'est sa publication simultanée en plusieurs langues, notamment en français. Le New York Times publie de plus en plus souvent ses articles en chinois, en espagnol et donc aussi pour le cinéaste québécois en l'occurrence en français. À lire donc un prodige du cinéma dans l'enfance perdue nourrit l'art dans le New York Times ce week-end.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le numérique et politique débat de ce soir est consacré à l'Europe et sa régulation du numérique au moment où la RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, entre en vigueur. Et nous en débattons ce soir avec Elliot Lepers, entrepreneur, bonsoir, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG, et Paula Forteza, députée La République En Marche. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Zoé Sfez qui reste avec nous.
Avec plaisir.
Chez les acteurs du numérique et de la tech, l'Europe et les Européens n'ont historiquement jamais autant fait parler d'eux qu'avec le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD qui entrera en vigueur le 25 mai prochain, c'est-à-dire tout prochainement. À défaut de réussir pour le moment à faire émerger des acteurs d'envergure mondiale comme un Google ou un Facebook ou Netflix ou un Twitter européen, l'Europe se fait remarquer par sa capacité à réguler ses acteurs. Ça passe donc par le RGPD, mais aussi par la fiscalité de ses entreprises en Europe, et c'est de ça dont on parle ce soir. Alors pour commencer, la plupart d'entre nous, d'entre vous, ont dû recevoir cette semaine une série de messages de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de LinkedIn, et etc., qui nous demandent de valider des choses. Alors peut-être pour commencer, Eliott Lepers, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on nous demande ça et quel est le lien avec la RGPD?
C'est vrai qu'on serait tenté de se dire que soudain, il y a une sorte d'élan vertueux qui a saisi la Silicon Valley. Mais en fait, tout simplement, ces entreprises, elles ont jusqu'au 24 mai au soir pour se conformer, en tout cas pour tous leurs utilisateurs et utilisatrices qui sont basés sur le territoire européen. Et donc, ils vont accéder à leurs services depuis le territoire européen, sont dans l'obligation de se conformer à un ensemble de règles assez contraignantes pour ces services. Et donc, on peut, à la fois sur la conception des services qui doivent uniquement utiliser des données qui sont essentielles, qui sont nécessaires, qui sont loyales pour le fonctionnement du service, et puis obtenir un consentement explicite.
Alors donc on clique, on doit dire oui, c'est ça?
Bah l'enjeu, c'est effectivement...
Mais souvent, on peut pas dire non.
Donc on peut pas dire non. Ou alors, on vous fait croire qu'on peut pas dire non, vous vous neutrez que sur Facebook, on vous propose, on vous dit
oui,
vous
ou
pouvez
alors...
accepter oui, et après, vous dites pas moi, je vais essayer de dire non. On vous donne un texte, on vous dit si vous n'acceptez pas, et là on vous dit continuer. Et là vous vous dites, mais si je continue, ça veut dire que je valide. Alors qu'en réalité, il faut continuer deux fois pour pouvoir dire non.
Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Oui, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas forcément fait de manière extrêmement transparente. Mais en tout cas, bon, là on a vu d'ailleurs qu'au même moment, Facebook lance une expérimentation sur la reconnaissance faciale.
Oui, il vous demande de dire oui aussi, vous êtes quasiment obligé de dire oui.
Le timing est quand même un petit peu bizarre, oui, parce quelques
que
semaines après Cambridge
Analytica. On protège vos données, mais maintenant on va en plus vous regarder, vous filmer, vous surveiller,
exactement,
avec votre visage.
Au prétexte de pouvoir mieux protéger l'accès à son compte Facebook. Donc toutes ces entreprises sont obligées de se mettre en conformité pour leurs utilisateurs. Elles encourent des peines extrêmement importantes, des amendes extrêmement lourdes, plusieurs millions d'euros. Et donc c'est ça qui est en train de se passer pour que, elles respectent le règlement, qui est un règlement qui protège les Européennes et les Européens à partir du 25 mai.
Paula Forteza.
Oui, donc en tant qu'utilisateur, il faut savoir à quoi on a droit avec ce nouveau RGPD. On a droit à que ce consentement soit libre, éclairé, informé. On a droit à pas subir un chantage au service, c'est-à-dire
alors que... Alors là, c'est pas trop libre, c'est pas trop éclairé,
voilà.
Et c'est un peu un chantage.
Voilà, les plateformes ne peuvent pas conditionner l'utilisation d'un service au fait que vous ayez accepté de partager vos données. Donc c'est le cas, on le voit parfois dans certains cas. Il y a aussi une question de privacy by design, c'est-à-dire que ce qui est précoché par défaut doit toujours être l'option la plus protectrice. C'est pas à nous d'aller faire un acte proactif pour nous protéger. Donc ça, il faudra être très vigilant. Il y a beaucoup d'associations qui sont en train de suivre la mise en place par toutes les plateformes qui sont en train de faire des comparaisons, voir quand est-ce que c'est pas à la hauteur des ambitions politiques qui ont été portées, et de faire des actions de groupe en conséquence. Nous avons par exemple la Quadrature du Net qui a annoncé qu'elle va lancer une action de groupe contre Facebook le 25 mai, justement parce que le consentement qui est demandé n'est pas jugé éclairé et libre. C'est vrai que les conditions d'utilisation sont parfois aussi trop techniques. On a besoin d'un master de droit pour comprendre à quoi on est en train de consentir. Donc, il faut vraiment que...
Et les millions d'utilisateurs de Facebook n'ont pas forcément, hélas, pour eux, pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, un master en droit. Et Eliott Lepers, le RGPD ajoute quoi par ailleurs?
Il y a aussi la question de la protection des mineurs qui est intéressante. Donc le consentement effectivement pour les personnes majeures, mais le consentement des responsables légaux pour les personnes mineures. En France, ce sera en dessous de 16 ans. Ça peut être en dessous de 13 ans pour d'autres pays. Et puis la question de la portabilité qui est très intéressante. La portabilité des données, ça veut dire que tous ces services sont obligés de vous donner la possibilité d'exporter votre profil, vos playlists par exemple sur un service de streaming de musique, ou bien vos préférences sur n'importe quel réseau social, pour aller reproduire cette expérience sur un autre réseau, sur un autre service concurrent. Et ça, c'est une opportunité intéressante en termes économiques, parce que ça va permettre à des acteurs de pouvoir repartir avec cet historique-là, avec toutes ces informations qu'on a au fil des années concaténé, eh bien, on va pouvoir utiliser ce qu'on a fait avec Facebook, mais aller chez un concurrent. Donc, on peut imaginer des alternatives qui émergent avec d'autres règles, avec d'autres business models.
Paula Forteza sur la RGPD, toujours.
Je crois justement que la portabilité des données est un des droits clés qui est en train d'être mis en place et qui va favoriser cette concurrence loyale au niveau européen. C'est déjà quelque chose qui a été testé au niveau des téléphones, par exemple, et ça marche très bien. On peut prendre son compte et aller vers une autre compagnie. C'est en train d'être mis en place aussi dans le secteur bancaire. Donc, pourquoi pas vraiment le mettre en œuvre au niveau des données personnelles. Ça va permettre justement qu'on puisse, par exemple, prendre ces données de YouTube et les emmener vers Framatube, qui est un service libre et plus protecteur des données personnelles, ou prendre ces données de Twitter et les emmener vers Mastodon, qui est un réseau social décentralisé. Donc ça va vraiment permettre d'avoir des initiatives européennes avec les valeurs qu'on veut porter au niveau international.
Alors la CNIL a émis hier encore une nouvelle alerte à l'intention des entreprises, parce qu'elle expliquait que depuis à quelques semaines de l'entrée en vigueur de ce règlement, on voit fleurir sur Internet toute une foule d'experts, de cabinets qui sont censés vous accompagner, qui se disent recommandés par la CNIL et qui en fait se contentent de vous envoyer un espèce de petit texte. Donc on a l'impression quand même les entreprises, évidemment pas les mastodontes parce qu'ils ont compris les enjeux, vont quand même avoir du mal à se conformer à ça, que ça va être compliqué. Et en tout début d'année sur Softpower, on avait entendu Yevgeny Morozov, qui évidemment est toujours assez, disons, frontal sur ces questions de la donnée, et qui disait, mais finalement, c'est quand même des protections du pauvre sur RGPD. Ça va pas changer la donne, ni sur les données, sur la question de la portabilité, ni véritablement sur les questions de sécurité. Est-ce que finalement, on peut s'attendre à une vraie évolution ou pas au cataclysme qui permettrait de vraiment faire changer la donne, même en matière économique?
Elliot Peppers.
C'est vrai qu'on parle beaucoup des très grandes entreprises, mais c'est un règlement qui s'applique à toutes les entreprises. Et aujourd'hui, il y a un peu un vent de panique qui souffle parce que ça demande des compétences juridiques et puis des aménagements de plein de dispositions qui sont pas forcément faciles à mettre
en place. Et notamment pour les entreprises françaises qui sont toutes petites, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que Google, Facebook, etc. Donc, on se tire pas un peu une balle dans le pied en
ayant ce type de règlement. Pas que les entreprises de l'Internet, c'est toutes celles qui gèrent de la donnée, donc ça peut être aussi les sites de prise de rendez-vous du docteur en ligne.
Et les journaux, Le Monde, j'imagine, Allociné, etc.
On augmente les standards, en fait. Moi, j'ai envie d'être assez optimiste parce que je pense que c'est un texte qui arrive finalement assez tard. C'est une mise à jour d'un texte qui a plus de 40 ans. Mais finalement, je trouve ça assez intéressant de se dire que ce texte, finalement, soit assez en avance vis-à-vis de l'opinion publique. C'est assez surprenant d'avoir une ambition aussi forte. Je suis assez curieux de voir comment ça va être mis en place, quelle va être la réaction aussi des autorités compétentes pour potentiellement aller punir les entreprises qui ne respectent pas la loi, quelle va être leur tolérance. Mais effectivement, voilà, il faut signaler qu'il faut faire gaffe aux arnaques en ce moment parce qu'il y a plein d'offres qui fleurissent. Et donc, il y a des guides très complets sur le site de la CNIL pour se renseigner, pour mettre à jour son entreprise, et puis aussi sur le site de Next PC Impact. Il y a plein d'informations très claires pour tout le monde.
Paula Forteza, sur ça, il y a toujours des effets pervers dès qu'on décide quelque chose.
Oui, il y a toujours des effets pervers, mais je crois que là-dessus, on est vraiment sur une ambition qui a été posée et qui est regardée partout dans le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, on commence à se dire finalement, l'Europe était en avance sur cette question de Cambridge Analytica, sur le grand scandale. Il y a eu d'autres scandales aussi, sur Grindr, par exemple, qui a laissé que des données...
Sur le statut HIV d'un certain nombre de personnes.
Voilà, de la zéro positivité des utilisateurs a été partagée. Donc, les risques sont vraiment très hauts. Il faut vraiment que tous les acteurs économiques fassent des efforts, que ce soit les petits, les grands, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales. On est face à un enjeu de société et il faut vraiment faire un effort, rehausser les standards, comme disait bien Eliette.
Et Eliette Lepers, une question un peu naïve comme ça. Quel est l'intérêt finalement pour les citoyens européens de faire attention à l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles? Si on prend, si on fait attention qu'on ne met pas des photos de soi particulièrement problématiques et si on ne raconte pas tout, pourquoi en fait avoir tant peur que ça, que ces données soient utilisées?
Je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas se tromper de cible. On parle beaucoup des données, mais derrière les données, c'est des individus en fait. C'est la question collective de nos libertés qui est posée. Parce que ces doubles numériques qui sont formés par les données qui sont stockées dans les serveurs dont on n'a pas forcément connaissance. C'est cette souveraineté-là qui dépasse finalement la question effectivement simplement de nos photos de vacances, je pense. Donc c'est une question de démocratie et de gouvernance derrière. Et de savoir finalement à quels acteurs est-ce qu'on donne ce pouvoir sur des individus et sur des sociétés entières.
Paula Forteza.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait un peu ce credo « nothing to hide », on n'a rien à cacher, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes données, etc.
Ou alors, de toute façon, ils vont tout savoir, donc autant...
Voilà, mais là, par exemple, justement, le cas de Cambridge Analytica de Facebook est très intéressant parce qu'il nous a montré ce qu'on peut faire avec ces données agrégées. On peut arriver à manipuler des élections politiques. Donc, ce n'est pas que le fait de données isolées, c'est ce qu'on peut arriver à faire avec ces données personnelles et qui est un vrai risque pour nos sociétés.
Zoris Fez.
Mais alors justement, vous le disiez tout à l'heure, Elliot Lepers, on a l'impression que presque elle devance les exigences de l'opinion publique, parce que souvent, et on en a parlé, et d'ailleurs il vient de le faire Frédéric en posant cette question, on a l'impression que les gens, finalement inconsciemment, n'ont pas tellement envie de savoir tout ce que ces données disent d'eux. Est-ce que du coup, est-ce qu'on va assez loin, finalement?
Moi, je crois qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans le principe de minimisation des données. Et c'est vraiment un changement culturel qu'il faut avoir.
Qu'est-ce que vous voulez dire par minimisation ?
Minimisation des données, c'est-à-dire que les entreprises ne recollectent que les données dont ils ont vraiment besoin techniquement pour mettre en place un service, pour mettre en place une application.
Vous savez bien que pour la publicité, ils ont besoin de ce qu'ils... Et c'est leur modèle économique, donc c'est à leur demander de se tirer une balle dans le pied.
Parfois, ils prennent beaucoup plus de données. Ils ont pris l'habitude de stocker des données dans le temps aussi, dont ils n'ont pas besoin de demander beaucoup plus d'informations dont ils ont besoin. Parfois, pour créer un compte sur un service, il s'agit juste de donner un mail, juste un pseudonyme, et c'est tout.
Ça mais devrait on être a... tout, ouais.
Voilà.
Vous demande trop de choses. Et l'Ile de Perse, alors, quelles sont les prochaines étapes? Et puis, quid de... Parce qu'il y a quand même aussi, en parallèle, l'Europe qui travaille, notamment Margrethe Vestager, qui est très très active et très d'ailleurs courageuse et dynamique, y compris parfois contre d'autres commissaires européens qui le sont moins, y compris français. Est-ce que les propositions de l'Europe sont efficaces? Quelles sont les prochaines étapes? Et aussi, il y a l'idée de taxer les entreprises.
Je pense que les propositions de l'Europe sont efficaces, notamment parce qu'on voit la réaction des acteurs, notamment américains. On a appris, là, ces dernières semaines, que Facebook avait migré 1,6 milliard de ses utilisateurs depuis ses serveurs, depuis la juridiction irlandaise vers la juridiction californienne, tout simplement parce que, eh bien, donc pour les utilisateurs qui sont asiatiques, par exemple, ou bien
africains ou latinos, ouais.
Voilà, et donc qui ne sont pas aujourd'hui contraints par la législation européenne, ils l'auraient été s'ils étaient encore juridiquement basés en Irlande. Donc on voit bien que l'Europe pose un standard qui est plus exigeant que le standard d'autres pays du monde. Et donc ça montre un précédent.
Ça peut être un modèle du coup aussi.
Ouais. Exactement. C'est un modèle pour avancer et pour et peut-être
des pays comme la Turquie, le Brésil étaient en pointe, donc ils vont sans doute suivre.
Ouais.
On peut imaginer.
Exactement.
Paula Forteza.
On commence à avoir des pénalités qui sont vraiment conséquentes. Donc il y a eu cette amende financière qui a été donnée à Google de 2,4 milliards d'euros parce qu'ils avaient mis en avant leur solution de Google Shopping au lieu d'en mettre d'autres, etc. Donc on commence à voir
dans le moteur de recherche, ils privilégient leur propre service.
Voilà, exactement. Et là, dans le cadre du RGPD aussi, on a des amendes qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial des entreprises. Ça commence à être conséquent et ça commence à être vraiment pris au sérieux par ces géants du numérique.
Il y a un problème quand même sur le ciblage des sociétés, sur le fait de taxer le CA ou les revenus sur le territoire, notamment Elliot Lepers.
Là, donc sur la fiscalité, sur la taxation, il y a des avancées intéressantes au niveau européen. Il y a deux mécanismes qui sont proposés. Ouais. Le premier, qui est un mécanisme de court terme, c'est de dire on va taxer l'activité sur le numérique. Donc tous les échanges qui sont un peu immatériels, on va pouvoir mettre en place une taxation de l'ordre de 3%. Et donc sur, par exemple, tout ce qui est intermédiaire. Vous êtes Uber, vous prenez une taxe quand vous mettez en réseau un prestataire de service et un consommateur. Eh bien, ça va pouvoir être imposé dans les pays où les profits sont générés. Ça, c'est nouveau. Et c'est compliqué au niveau européen parce que eh bien, tous les petits paradis fiscaux comme l'Irlande ont fort à perdre si jamais ces profits sont partagés. Et donc, il va falloir se mettre d'accord au niveau des 28 ou des 27 pays pour faire passer ces questions-là. Et puis après, un deuxième mécanisme de plus long terme, en fait, de repenser l'assiette de taxation des impôts sur les sociétés. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on repense comment est-ce qu'on considère les profits. Et ça, c'est un travail de plus longue haleine. C'est un travail qui va émerger autour de 2020. Mais donc, c'est intéressant d'avoir ces deux mécanismes, le court terme et le plus long terme.
Un mot seulement, Paula Forteza, pour terminer.
Sur toutes ces questions, on est en train de mettre à jour des modalités de régulation, que ce soit la concurrence loyale, que ce soit la fiscalité, aux yeux des enjeux du numérique. Donc, la question de la territorialité est extrêmement importante.
Centrale. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Eliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG, et Paula Forteza, députée La République En Marche. On en reste là pour ce soir. Merci Zoé Sfès d'avoir été.
Frédéric.
La semaine prochaine, on fait le bilan Emmanuel Macron.
On a hâte.
Depuis une année, médias,
politique,
culture, numérique et innovation.
Et oui.
Dans un instant, vous allez retrouver Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. On se quitte avec Asius, justement, du label de Pedro Winter, Headbanger, I Love You So. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.